Place aujourd'hui à une émission spéciale sur l'exposition Divina Deli, dont le point de départ est l'œuvre littéraire majeure, la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui témoigne de la civilisation médiévale. Et ben, cette exposition a lieu à un moment où on célèbre actuellement le 600e anniversaire du décès de Dante. Alors, plusieurs artistes, en fait, dans le passé, on a fait appel dans l'histoire à plusieurs artistes pour illustrer ce texte très inspiré qui propose 100 poèmes divisés en trois parties. Bien sûr, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Alors, après Botticelli au 15e siècle, William Blake au 18e siècle, Gustave Doré, pour ne nommer que ces trois artistes de renom, eh bien, le non moins réputé Salvador Dali a travaillé durant 10 ans sur 100 aquarelles, dont les éditions parisiennes d'art Les Heures Claires feront 4765 gravures sur bois en 1963. Alors, pour en savoir plus sur cette série d'œuvres exposées et leur réalisation, l'exposition en cours commissariée par le muséologue Rénal Michaud et surtout la passion dalinienne de notre invité du jour, eh bien, voici cet entretien avec Félix Bélanger, rencontré jeudi passé au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal, qui diffusera cet entretien spécial après un pont musical qui nous fera entendre une interprétation de Giovanni Vianini de Mila, d'une musique du 13e siècle, Stabat Mater, de Jacopo Nedetodi, poète franciscain italien, un grand mystique et un compositeur exactement de l'époque de Dante Alighieri. Dante Alighieri, qui, lui, est né en 1265 et décédé en 1321. Alors, voici donc cette musique évocatrice et l'entretien qui suit avec Félix Bélanger. Le Grand Quai du Port de Montréal est l'hôte d'un événement très spécial, l'exposition Divina Deli, de 101 œuvres de Deli, célébrant les 700 ans après le décès de Dante Alighieri. Une exposition qui fait se rencontrer l'humaniste, le politicien engagé, le poète, l'auteur en son temps reculé d'une œuvre majeure, la Divina Commedia. Bien sûr, il s'agit de Dante Alighieri. Et qui fait se rencontrer donc aussi l'artiste surréaliste extravagant Salvador Dali. Alors, j'ai le grand plaisir de rencontrer l'idéateur de l'exposition Divina Deli, Félix Bélanger. Bienvenue.
Enchanté, bonjour, merci.
Vous venez juste de me parler d'un événement d'importance, c'est-à-dire hier, c'était une date d'importance.
Avant-hier, oui.
Avant-hier.
En fait, le 14. C'était l'anniversaire, le 700e anniversaire du décès de Dante Alighieri. vous l'avez présenté, ce grand poète, le fondateur de la langue italienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que...
notre entrevue tombe à point.
Notre entrevue tombe à point. Ici, au Québec, on le connaît moins, mais en Italie, tout le monde connaît Dante Alighieri, la Divine Comédie, ils l'ont appris par cœur à l'école.
Il occupe une grande place dans l'imaginaire italien.
Oui. Si on pense que Maurice Richard, c'est une grande star chez nous, on n'a rien vu. Dante Alighieri, c'est immense en Italie. Oui. C'est parce que la Divine Comédie, c'est une grande réflexion sociale. Dante était un humaniste. Alors, quand il a écrit sa Divine Comédie, ça a influencé les penseurs qui ont suivi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 700 ans qu'à tous les 5 ans, à peu près, il y a un artiste, il y a un philosophe qui s'exprime sur la Divine Comédie de Dante. C'est vraiment impressionnant.
Oui, tout à fait. Alors, Félix Bélanger, à nouveau ravi de vous rencontrer, vraiment au lieu d'exposition au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. Si vous nous présentiez d'abord la genèse de ce projet, je pense que ça remonte à plusieurs années de préparation.
Oh, okay.
Ça a commencé en Europe, puis ça s'est poursuivi aux États-Unis.
Oh là là, oui. Ça, je vais essayer de faire toute l'histoire, mais l'histoire courte quand même. Ça a commencé, en Europe, avec la rencontre d'un collectionneur qui possédait une œuvre. Lui, il ne savait pas, il n'était pas certain de qui c'était. Une amie à lui, qui était une autre collectionneuse aussi, l'avait orienté vers Salvador Dali. Alors, j'ai eu le plaisir de récupérer cette œuvre-là et de faire un travail de recherche. Ça a été avec ma collaboratrice, Léa Hauteville. On a mis six mois et demi de notre vie à temps plein à faire une recherche sur cette œuvre-là.
C'est quelque chose que vous intéressez particulièrement à Dali parce que...
Bien, moi, c'était plus le côté recherche historique. J'ai une formation en histoire à l'université. Alors, faire une recherche sur un personnage, un lieu, un bâtiment, un objet, c'est faire une recherche. Et Léa est férue d'art. Alors, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, cette œuvre-là nous a révélé des choses sur Salvador Dali qu'aucun expert ne savait, ne connaissait. Alors, on a été reçus à bras ouverts à Figueras, à la Fondation Gala Dali.
J'imagine. Vous arriviez avec des nouvelles informations de cette nature.
Ben oui. Alors, on a rencontré aussi des experts, un expert en Allemagne, des experts en France, aux États-Unis. Et c'est là où s'est passée la grande rencontre avec M. Frank Hunter. Qui est
un spécialiste, l'archiviste.
C'est le spécialiste de Salvador Dali. En fait, il y a deux grands experts au monde. C'est Frank Hunter, qui est à New York, et Nicolas Descharnes, qui est en France. Et avec M. Hunter, ça a été un coup de foudre, littéralement. Un coup de foudre professionnel, personnel aussi. C'est un bel homme, c'est un grand homme. Qui c'est ça, et l'archiviste de Salvador Dali depuis 1969 a reçu le mandat de la main de Salvador Dali de tenir ses archives. Alors, la discussion avec lui, bon, avait très très bien commencé, et je vous dirais, après 30 minutes, 45 minutes seulement, tout de suite, il m'a dit, bon, là, tu t'assois ici, on va parler. T'es qui, toi? Il n'y a pas grand monde qui est rentré dans mon bureau et qui m'en a appris sur Salvador Dali. Et évidemment, un bon Américain qu'il est, il m'a demandé, est-ce que tu travailles pour les Russes? Bon, laissons nos préjugés de côté. Non, c'est vraiment parce qu'il avait connu une mésaventure avec des Russes qui avaient essayé d'utiliser son nom pour faire authentifier des œuvres qui n'étaient pas de Dali. Alors, mais c'était plus une boutade que d'autre chose. Et à partir de là, a commencé une grande collaboration. Puis, il m'a fait découvrir cette œuvre magnifique qu'est la Divine Comédie. Il m'a donné accès, évidemment, à plusieurs œuvres de Dali. Il m'a fait découvrir des choses extraordinaires. Et cette envie-là de faire une exposition autour de la Divine Comédie a grandi. Et c'est en 2019... avec des collaborateurs, qu'on a commencé à jongler à l'idée de faire une exposition là-dessus. Et puis, évidemment, quand la pandémie est arrivée, bon, on s'est mis en petite boule et on a pleuré. Et quand on s'est relevé, on s'est dit, mais c'est plus que jamais l'occasion de présenter une exposition sur ce sujet-là. Parce que la Divine Comédie, c'est un voyage en soi, SOI. Mm. C'est vraiment... c'est une grande, grande...
À travers les mythes fondateurs de l'humanité. Hein?
Ah ben oui, mm-hmm. Ah ben oui, à travers les mythes fondateurs de l'humanité, c'est une grande introspection. Et c'est ce que tout le monde a fait depuis maintenant un an et demi. Et ce qui est fantastique, c'est que quand les gens traversent l'exposition, on les voit arriver avec une mine quelconque et on les voit ressortir avec un autre air complètement. Les gens sont illuminés. J'ai une visiteur qui vient de sortir justement, puis elle était très heureuse de sa traversée, de ces trois univers-là créés par Dante et mis en image par Salvador Dali, qui sont l'univers de l'enfer, du purgatoire et du paradis.
Alors justement, une œuvre qu'on pourrait qualifier de religieuse, mais elle est avant tout une œuvre d'inspiration religieuse.
Inspiration religieuse, comme on... ça, c'est fantastique pour ça, parce que c'est une allégorie. En fait, on se rend compte... Aujourd'hui, c'est encore la même chose. On est très, très inspiré par les religions. On est encore à se demander c'est quoi notre position face aux religions en général. Ici, au Québec, on a fait des grands choix dans les années 60-70 de créer une scission sérieuse entre l'Église et l'État. Et c'est ce que prônait Dante Alighieri il y a 700 ans, la séparation de l'Église et de l'État. Mais malgré tout...
Des visionnaires avant leur temps.
Ben oui. C'était un grand humaniste, Dante.
Mais il n'avait qu'un seul chemin pour s'exprimer, la religion.
Ben écoutez, ce sont des images fortes, là. La religion, parlons juste de la religion catholique, c'est celle qu'on connaît le mieux ici. C'est une business bien rodée, là. Ça fait des centaines et des centaines d'années que ça fonctionne. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il y a ces images fortes-là qui, on le sait...
Qui interpellent.
Qui interpellent. Si on a étudié un peu l'histoire, on sait combien les Amérindiens ici ont été impressionnés par le visuel, par ces idées-là, par ces images de la religion catholique. Alors, ce qu'a fait Dante à l'époque, c'est qu'il s'est servi de ces images fortes-là pour... Alors, c'est une allégorie. C'est vraiment pas religieux comme exposition, c'est une allégorie. Il s'est servi de ces images fortes-là pour faire comprendre aux gens que l'enfer, et c'est ce qu'il exprime dans la Divine Comédie, l'enfer, c'est tout ce qu'on déteste ici sur Terre, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous calamine, qui nous gruge. Le purgatoire, pour lui, c'est le début de l'ascension. On essaie de laisser derrière nous...
un processus de changement positif.
Oui, exactement. C'est un processus de changement positif.
De prise de conscience.
Et qui passe par quoi? Qui passe par la connaissance, qui passe par le savoir, par l'art.
Même la culture, oui.
L'art, la culture, oui, beaucoup. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il fait, à cette époque-là, référence pas seulement... Lui, il était florentin. Il fait pas seulement référence à la culture italienne et romaine, mais... grec de partout, de tout ce qu'il connaissait, il se sert de légendes. Alors, c'est très, très ouvert aux autres cultures. Et en ce sens-là, je trouve que...
C'était une œuvre avant tout humaniste. Hein?
Ouais, très humaniste. Et je trouve que Dante nous ressemble beaucoup. Il y a pour moi une grande fierté de Québécois de... que ce soit une équipe entièrement québécoise qui ait monté cette exposition-là autour de Dante Alighieri et de la Divine Comédie illustrée par Dali, parce que Dali aussi était un homme du monde. Il vivait 4 mois par année en France, 4 mois à Figueras, en fait à Portlliga, chez lui en Catalogne, en Espagne.
8 ans de sa vie aux États-Unis.
Bien, 8 ans de sa vie aux États-Unis, mais après la fin de la guerre, quand il est retourné chez lui, il revenait à tous les ans, il passait un autre 4 mois à New York, à l'hôtel Saint-Régis. Donc, il est venu souvent à Montréal, il adorait Montréal.
Mais que faites-vous de ce gros débat, bien sûr, qui concerne Dali, à savoir qu'un surréaliste ayant été un petit peu excommunié par l'orthodoxe André Breton se retrouve à s'intéresser à cette œuvre d'inspiration religieuse quand même, pas religieuse, mais d'inspiration religieuse, la Divine Comédie. C'est tout un débat qui fait réagir certaines personnes.
Dali s'est toujours promené justement entre la religion puis le plus loin possible de la religion. Il y est retourné à la fin de sa vie. Alors, il était comme tout le monde. Il se posait des questions.
On a quand même un paradis avec des personnages bibliques, là.
Ah ben oui, c'était la manière qu'avait choisi Dante d'illustrer cette montée au paradis. Mais l'histoire se termine quand même par l'histoire de la Divine Comédie se termine par une réflexion très personnelle. Dante, en s'éloignant à travers les planètes, se retourne et regarde la Terre et réfléchit sur son impact sur cette planète qui est la sienne. Alors ça aussi, c'était très, très, très avant-gardiste. Là. Il médite sur sa responsabilité.
Reste résolument d'actualité 700 ans plus tard.
Ah ben oui, tout à fait. Totalement. Et c'est pourquoi les gens sont si touchés. Bon, on a réussi, évidemment. C'est une question d'équilibre, hein, parce que les œuvres de Salvador Dali sont très fortes, très riches. On a des visiteurs qui restent... Il y a 100 œuvres, 101 avec cette immense peinture là, qu'on a rapatriée et qui est dans l'exposition, dont on parlera...
On va parler dans quelques instants, oui.
Mais il y a des visiteurs qui restent collés devant une œuvre pendant plusieurs minutes et ils savent qu'ils en ont 99 autres à voir. On a eu une visite justement magnifique cette semaine, Madame la consul générale d'Italie, qui, à l'occasion de la fête du 700e anniversaire du décès de Dante, s'est offerte ce congé.
L'événement.
Oui, oui. Et elle était magnifique à voir parce que, même chose, elle est rentrée. Vous savez, imaginez là, le travail qu'elle fait, cette femme-là, consul général d'Italie. Elle me dit qu'elle dort deux, trois heures par nuit seulement. Alors, elle est arrivée, elle était comme une balle de ping-pong, puis elle est ressortie. Elle était d'un calme olympien.
Illuminée par cette exposition qui parle de la nature humaine dans ses côtés sombres et ses meilleurs côtés, la nature humaine lumineuse, ses côtés lumineux. Alors écoutez, si on parlait de l'œuvre de Dali. Dali a quand même surmonté plusieurs obstacles pour arriver à réaliser ses œuvres qu'on peut apprécier ici. Ça a débuté par une commande d'aquarelle.
Oui, c'est ça. Ça a été une commande par le gouvernement italien à peu près en 1950. Dali a travaillé là-dessus pendant 10 ans. Et à un moment donné, vous savez, ça c'est magnifique parce que, bon, je vais essayer d'expliquer clairement. La Divine Comédie, c'est presque l'histoire de l'humanité. Et il est arrivé là un phénomène extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement italien a changé, il y a eu des élections. Et il y a eu cette rumeur qui s'est mise à courir qu'un Espagnol était en train de travailler sur le projet d'illustrer la Divine Comédie de Dante. L'objectif, c'était de révéler les œuvres pour la célébration du 700e anniversaire de naissance de Dante. Alors, quand les Italiens ont su que c'était un Espagnol qui travaillait là-dessus, il y a eu une grogne populaire et le mandat a été retiré à Salvador Dali, qui lui est parti de son côté et a terminé le projet et l'a présenté à Paris.
Dans une grande exposition.
Oui, dans une grande exposition, puis ça a fait fureur en 1960 au Palais Galliera, au Musée Galliera à Paris.
Donc, il présentait à ce moment-là des aquarelles.
Oui, c'était 100 aquarelles. Mais ce qui est magnifique dans cette histoire-là...
Mais il a voulu faire relever un gros défi par la suite.
Ah ben oui, attendez, je vais arriver au défi Chantal. Ce que je trouve fantastique là-dedans, c'est que les Italiens, en chassant Dali, ont fait la même erreur que les Florentins en 700 ans avant, qui avaient chassé Dante Alighieri de Florence.
L'histoire se répète?
Oui, Dante a été conduit à l'exil, et là, pour célébrer le 700e anniversaire de naissance de Dante, qu'est-ce qu'on fait? On chasse... Cet artiste-là, qui est Salvador Dali, parce qu'il est espagnol. Alors que Dante, prône une espèce de multiculturalisme, d'interculturalisme de son époque. Les Italiens font l'erreur de chasser Dali parce qu'il est espagnol. C'est extraordinaire comme erreur. Je trouve ça magnifique. Puis ça m'amène à dire que je trouve ça superbe, encore une fois, qu'on présente ça ici à Montréal, au Québec, parce que avec les Italiens, on a notre histoire aussi. Les Italiens, les Québécois se sont confrontés dans les années 60. Les Canadiens ont mis les Italiens en prison pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, oui.
De faire ça ici aujourd'hui, c'est une grande réconciliation.
Encore félicitations. Mais revenons à ce défi.
Soyons humanistes.
Soyons humbles. Défi artistique. Expliquez-nous ce défi de vouloir en faire des xylographies.
Ah ben voilà, ça c'est fantastique.
Pour quelle raison?
Ben pour quelle raison? Parce que Dali s'est beaucoup reconnu, justement, dans
la xylographie avec de la résine.
Hein,
ça?
Oui. On ne rentrera pas dans les détails techniques, mais sérigraphie, lithographie, xylographie. Bon, xylographie, c'est une méthode de gravure.
Simplifions et parlons de gravure.
Gravure sur bois à l'origine. Alors là, Dali et le graveur avec qui il travaillait ont choisi, plutôt que le bois, de travailler sur une résine très, très, très dure qui s'appelle la bakélite.
Il a voulu transformer ça en gravure. Pour quelle raison?
Parce qu'il avait envie de... C'était la méthode de diffusion de l'époque.
Un retour aux sources.
C'était l'Instagram de l'époque. Alors, en faisant de la gravure, ça nous permettait de faire des estampes avec ces gravures-là et d'en faire des centaines, voire des milliers. Donc, de diffuser cette œuvre-là à un plus grand nombre, le choix qu'il a fait à l'époque, ça a été de mettre ça dans un livre accompagné des textes de la Divine Comédie. C'est un choix qu'il a fait avec son éditeur, M. Forêt. Et ils ont fait un magnifique coffret. Bon, il y avait... À l'époque déjà, Dali était très business, hein? Fait qu'il y avait l'édition de base. Dali, ses xylographies, il les a présentées soit en 3 volumes, édition de base, 6 volumes, édition de luxe, et il y avait 12 volumes, édition grand luxe, avec des compléments d'information et etc. Donc, ces œuvres-là, même s'il y en a fait plusieurs tirages, se sont retrouvées dans des bibliothèques. Alors, n'ont pas tellement été vus. Alors que c'est une œuvre, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la gravure. C'est, on le répète, 100 œuvres qui ont nécessité chacune 30 à 35 impressions. Donc, ça veut dire que chaque planche a été gravée 30-35 fois pour...
Les différentes couleurs.
Pour poser les différentes couleurs sur chacune des estampes qui sont là. Ce qui donne une profondeur extraordinaire à chacune de ces œuvres-là, de ces estampes-là. Les gens qui connaissent l'art, qui sont des artistes eux-mêmes, qui viennent voir l'exposition, qui s'arrêtent devant ces œuvres-là, nous bombardent de questions. Ils nous disent « Mais non, ça se peut pas, c'est de l'aquarelle, c'est de la sanguine. » Il a retravaillé les œuvres après. Ils reconnaissent l'immense talent de Salvador Dali.
Alors, écoutez, merci de ces précisions. Alors, il aura surmonté bien des obstacles, Salvador Dali.
Il s'est entêté parce qu'il se reconnaissait dans cette histoire-là, ce qui fait que c'est un Dali qu'on arrive finalement, en faisant le tour de l'exposition, qu'on arrive à reconnaître parce qu'il y a des réflexes d'artiste, il y a des récurrences. On pense à cette fameuse horloge molle qui fond sur le coin de la table. Il y a une des estampes ici à l'intérieur qui rappelle cette horloge molle, oui, c'est ça.
Alors, ce qu'on découvre ici, c'est un Dali un peu différent de sa production habituelle, mais on retrouve des références à son approche.
Mais très différent, je dirais, en ce sens que c'est très touchant, c'est très intime. Ça, c'est impressionnant comme il réussit, il vient nous chercher vraiment, là, il vient nous triturer, il vient nous chercher au cœur, il vient nous chercher aux tripes, littéralement, parce que ça se sent dans l'œuvre que lui, ça l'a touché, la Divine Comédie. Ça l'a touché profondément, cette histoire-là. Beaucoup de, de similitudes. Bon, Dali a connu l'exil comme Dante. La référence à la femme, j'aime beaucoup raconter ça. Dali nous a servi une image de Gala, qui était sa muse, qui est une image un peu faussée. Il nous a présenté Gala comme étant un être extraordinaire. Il l'a magnifié. Mais Gala, dans la vraie vie, ceux qui l'ont connu, Frank Hunter est là pour en témoigner, nous raconte que c'était une peste. Elle n'était pas endurable, elle n'était pas gentille, elle était méchante.
Une vraie diva.
Une vraie diva. Et Dante, lui, c'était Béatrice. Bon, on en sait peu sur Béatrice, on ne sait pas si c'était une bonne ou une mauvaise personne. Là n'est pas le point.
Femme idéalisée.
Femme idéalisée parce que Béatrice est morte très, très jeune. Donc, c'est ça, c'était le fantasme. C'est la femme idéalisée. Il n'a pas vraiment connu Béatrice. Donc, il la présente dans la Divine Comédie comme un être exceptionnel, magnifique, extraordinaire. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est la place. C'est la place que Dante a donnée à Béatrice dans son récit. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un récit présentait une femme qui soit au même niveau que l'homme et même des fois plus avancée, plus évoluée que lui. Elle arrive au paradis avant lui, donc elle a le savoir, la connaissance, elle connaît l'art, elle possède la culture, les cultures. On dit donc de la Divine Comédie que c'est le premier récit féministe de l'histoire de l'humanité. Pas féministe revendicateur, mais même Madame la Consul nous apprenait que Dante, dans la Divine Comédie, a féminisé des mots comme « ministre »,« ministra ». Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de faire au Québec ici. On a commencé à faire ça avec Louise Baudouin à une autre époque, comparativement aux Français qui sont pas capables de dire « Madame l'avocate »,« Madame la Consul », c'est « Madame le Consul »,« Madame l'avocat ». Alors, Dante a fait ça il y a 700 ans et nous, on le fait avec grand plaisir ici au Québec.
On a un peu comprendre ce duo. Hein. Ce sont finalement deux libres penseurs qui sont réunis dans le cadre de cette exposition-là. Deux artistes dont libres dans leurs inspirations et qui osaient le faire à une époque quand même assez contraignante. En tout cas, on vous remercie d'avoir pensé à ce projet d'exposition. Alors, je pense que ça nous éclaire beaucoup sur l'évolution de la nature humaine. En fait, il y a eu des humanistes dans le passé, il en a encore aujourd'hui, il y en aura dans le futur.
Nous sommes là.
Alors, c'est une exposition qui ne cesse de rappeler toute son actualité. Si vous nous présentiez maintenant, le temps file, le parcours de l'exposition proposée au public. Alors, il y a trois étapes importantes, bien sûr, on s'en doute. Et parlez-nous aussi du clou de l'exposition, qui est une œuvre que vous avez acquise.
Oui. Écoutez, j'aime comment vous l'avez introduit parce que, oui, c'est une... Dali et Dante sont sortis du cadre, littéralement. Ils ont fait exploser le cadre et c'est ce que tout le monde vit. Une envie de sortir du cadre, une envie de voir, de faire les choses autrement. Et ce qui est fantastique, c'est que dans cette exposition-là...
Il y a tout un parcours proposé au public. Ça commence par un couloir.
Oui, un couloir. Alors, on nous amène dans trois univers qui sont vraiment définis, qui sont l'enfer, le purgatoire et le paradis, mais tout en ouverture. Tout en réflexion. Donc, c'est pas un cadre qui vient nous refermer sur quoi que ce soit. Au contraire, ça nous démontre que ce sont juste des images de référence. Alors oui, c'est un parcours. C'est unidirectionnel. On revient pas sur ses pas. On traverse cet enfer-là. Après ça, ça nous conduit au purgatoire.
Il y a une forêt qui débute le...
Une forêt, au début, qui est la forêt que traverse Dante dans son récit.
Et qui est réalisée par un artiste visuel.
Oui, c'est un artiste qui a travaillé avec nous, Fred Ouellette,
Bien connu de la communauté en visuel.
Oui, qui est notre scénographe, qui a fait un superbe travail. Cette forêt-là, elle est magnifique. Et elle rappelle cette ouverture-là. L'histoire de Dante commence, la Divine Comédie commence là-dessus. Il arrive dans la forêt et se demande s'il va entrer dans cette forêt-là. Et cette forêt-là représente le milieu de notre vie. Aujourd'hui, les mots qu'on choisirait, c'est « j'arrive à 40 ans », « je suis en pleine crise », « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait avant », « où est-ce que je m'en vais après ». En résumé, la grande question de Dante, c'est ça. Et c'est la question que se pose l'humanité aujourd'hui, parce qu'on a tous vécu une crise existentielle en même temps.
Et on vient d'en vivre une.
On est en plein dedans. On espère qu'on en sort, là, qu'on va arriver à notre paradis collectif, tout le monde.
Et oui, une scénographie vraiment englobante, particulièrement pour l'enfer au début.
Oui, l'enfer, le purgatoire. Au paradis, on voulait quelque chose de plus dégagé, de très lumineux, avec des rideaux blancs, très théâtral, tout ça. En fait, on a un grand texte, qui est la Divine Comédie, et on a un homme spectacle, Salvador Dali.
Alors, ça l'écrit bien.
Oui, on l'a laissé donner son spectacle, parce que ses œuvres, c'est comme si c'était un grand acteur qui s'exprime. Alors, on est venu envelopper ça de rideaux, de lumière, de son. La bande sonore, elle est extraordinaire. On parle de la scénographie, mais Yann Veillette, qui a fait la bande sonore, a fait un travail de maître. Yann Veillette a très, très bien compris le travail de Salvador Dali. Alors, on n'upstage pas les œuvres, mais on vient vraiment les appuyer, les enrober, les supporter. Et oui, tout ça nous amène à cette grande peinture qui est exposée dans le purgatoire, qui est le nuage, Cloud, que Dali a peint. Et quand je dis grand, c'est 6 mètres par 9 mètres. Là, c'est immense. Dali a peint ça. C'était un des décors du film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Spellbound, en 1944. Alors, c'est une collectionneuse que je connais qui avait cette œuvre-là roulée dans une caisse à Paris et qui a accepté de nous l'envoyer ici, à Montréal.
Est-ce que vous en avez fait l'acquisition?
Oui, c'est une acquisition qu'on a faite. Elle a été très, très accommodante. Je vais juste dire ça. On est vraiment choyés d'avoir cette collectionneuse-là comme amie et comme collaboratrice. Elle, c'était pour le bonheur de savoir cette œuvre-là enfin exposée et vue par le plus grand nombre possible. Alors, elle a tout mon respect. C'est une grande dame. Et voilà, cette œuvre-là...
Qui désire garder l'anonymat,
et c'est correct comme ça. Cette œuvre-là, elle est extraordinaire parce que c'est une œuvre des plus surréalistes. C'est un nuage. Alors, quoi de plus surréaliste qu'un nuage? Je dis ça parce que ce qu'on aime du surréalisme, c'est combien ça vient ouvrir notre imaginaire. Et un nuage, c'est ce que ça fait dans la vie. Qu'est-ce qu'on aime des nuages? On s'installe devant des nuages, puis là, ben, on dit « Oh, regarde, je vois ceci, je vois cela, je vois un cœur. Oh non, moi, je vois un bateau, je vois plutôt un dragon. » Alors, c'est ça que ça fait un nuage. Ça, c'est le phénomène qu'on appelle de la pareidolie. Ça ouvre, ça met la switch imaginaire à « on ». Et ce nuage-là qu'a peint Dali, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a justement pas peint un nuage, il a peint le phénomène de la pareidolie. Quand on s'installe devant son œuvre, qui est un immense ciel gris ombragé avec ce gros nuage-là dans le coin, bien, on se rend compte qu'on fait ça systématiquement. On se met à s'imaginer « Ah, je vois ceci, je vois cela ». Les gens s'expriment sur... Là, je ne révélerai pas tout. Je vais laisser les visiteurs qui vont venir nous voir s'amuser à imaginer ce qu'ils veulent bien imaginer. C'est ça.
C'est une expérience, finalement, à vivre dans le cadre de cette exposition-là. Peut-être, petite dernière question. Je pense que vous avez... Si vous me parlez d'une œuvre que vous affectionnez particulièrement dans le cadre de l'exposition, une œuvre en particulier, c'est difficile, il y en a 101.
Il y en a
une en particulier, je pense, que vous affectionnez particulièrement. Pour quelle raison?
Il y en a quelques-unes. Je ne sais pas, Chantal, d'où vous avez pris votre information, parce qu'à chaque fois, je réponds quelque chose de différent. Évidemment, le nuage, elle vient me chercher. Oui, dans le paradis, il y a Église et Empire, que j'aime beaucoup. parce que le personnage nargue un rhinocéros sur cette œuvre-là. Et on sait comment un rhinocéros, c'est méchant, c'est féroce.
C'est fort et endurant.
C'est fort et endurant, c'est menaçant. Et on a un personnage d'ange qui tend son doigt vers la bouche du rhinocéros pour lui dire « Tu ne me mordras pas, tu ne me fais pas peur, je suis au-dessus de tout ça. Tu n'as plus d'emprise sur moi. » On suppose que le rhinocéros, là c'est libre à chacun, est-ce que le rhinocéros représente l'Empire? Est-ce qu'il représente l'Église? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'État qui couche avec l'Église et vice-versa? Est-ce que le personnage de l'ange est au-dessus de tout ça? Alors, libre à chacun de l'interpréter. Mais oui, c'est une des œuvres qui me fait sourire à chaque fois que je passe devant. Et quand je suis dans l'exposition, qu'il y a des visiteurs, puis que je vois qu'ils sont passés un peu trop vite devant celle-là, je les ramène, puis je les questionne. Donc, ça devient très ludique. On joue beaucoup avec cette œuvre-là. Et d'ailleurs, les visiteurs ont ce plaisir-là. Quand je n'y suis pas, il y a les guides, les médiateurs culturels qui sont là et qui offrent beaucoup d'informations aux visiteurs. Et j'ai ce plaisir-là de rester en arrière et d'écouter les visiteurs et les guides jouer entre eux, parce que ce sont des œuvres qui mènent à ça, qui mènent à quelque chose de très ludique. Les gens jouent beaucoup. Il y en a une, là, on a des élections qui s'en viennent. L'œuvre s'appelle « Les politiciens corrompus ».
Alors, alors, ce ne sont que deux. Il y a 99 autres œuvres à découvrir ici. Et qui chacune suscitant tout un questionnement. Merci. Et vous avez des guides aussi. Vous pouvez aussi demander l'intervention. Vous pouvez poser tout plein de questions à des guides présents sur place. Alors vraiment, merci beaucoup, Félix Bélanger, de nous avoir présenté cette exposition consistante et inspirante. Merci. C'est une exposition qui dure quand même encore quelques semaines.
Jusqu'à la fin octobre, oui.
Donc, une exposition jusqu'au 30 octobre de mémoire, jusqu'au 31 octobre, merci, au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. Merci et félicitations. C'est une exposition d'intérêt à voir absolument.
Chantal, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Un plaisir de vous rencontrer et de visiter cette exposition avec vous.
Un grand plaisir réciproque. Merci.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, on vient d'entendre « Cauchemar éveillé » d'Alexandre Soupé. Ça correspond à l'ambiance qu'on vit à l'entrée de l'exposition Divina Dali au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. Et pour compléter ces propos fort instructifs et voire captivants de Félix Bélanger, l'idéateur de l'exposition, nous allons joindre à l'instant Sophie Pardo et Léna Guillot, de l'équipe In Situ qui ont vu l'exposition lors de son ouverture, tout comme moi. Alors, d'abord, Sophie Pardoux, notre artiste collectionneuse, présidente du conseil d'administration de Zocalo et donc notre chroniqueuse dans la discipline de l'estampe. Bienvenue, Sophie. Est-ce que cette présentation te convient?
Oui, ça me convient parfaitement. En effet, on peut constater qu'il y a une belle exposition, en effet, d'une édition des gravures qui avaient été faites.
Sophie Pardoux, quelle a été ton expérience?
Des aquarelles de Dali. Donc, je pense que vous avez déjà fait la présentation au préalable. Je n'ai pas pu être en ligne auparavant.
Mais ton expérience, Sophie, de l'exposition et ton appréciation de la série de gravures, parle-nous-en un peu.
Alors, en fait, il est présenté au Vieux-Port. C'est une des 33 éditions qu'a fait réaliser Jean Forêt en collaboration donc avec Dali. Et en fait, Dali avait donc réalisé ses aquarelles, pour illustrer le travail de Dante. Et suite à ces aquarelles, eh bien, ont été réalisées des xylogravures, en fait, des xylogravures qui ont été faites sur des blocs de résine. Mais par rapport à la technique, en fait, il n'y a eu qu'une seule édition des gravures originales, en fait, puisque il faut creuser selon la technique dans le même bloc pour obtenir des couleurs différentes. Donc, en fait, cette édition-là n'a pas pu être réimprimée, donc il en reste un exemplaire. Mais donc Jean Forêt ensuite a édité donc 33 livres de luxe. Il n'existe seulement que 33 éditions, dont une nous est exposée au Vieux-Port, en fait.
Oui, merci donc, Sophie.
La qualité oui. des gravures qui avaient été réalisées en collaboration avec Dali, c'est vraiment un travail exceptionnel.
Oui, OK, merci.
Même s'il s'agit d'une édition des gravures, c'est incroyable comme travail. C'est un des travaux les plus reconnus, finalement, de Dali.
Oui.
Donc, je vous le conseille. Vraiment, c'est un gros travail de coloration très important. Sans parler de la qualité visuelle et de la recherche onirique du travail de Dali, c'est superbe. C'est vrai que c'est très complet. Il y a 101 illustrations. Oui. Donc, par là même, on voit toute l'ingéniosité de Dali. On retrouve évidemment des éléments qu'il a repris aussi dans ses tableaux tout au long de sa vie, comme les béquilles, par exemple, oui. Des éléments qui représentent le support des structures molles, finalement, qui symbolisent la faiblesse chez l'être humain. Et on le voit notamment au champ 14, qui s'appelle le blasphémateur.
Oui.
Et donc, le blasphème suggère des prémices faibles et vulnérables. Donc, en fait, c'est un exemple, les béquilles, mais il y a beaucoup d'autres éléments comme ça symboliques qui représentent la faiblesse et le mal chez l'être humain qui progressivement va de l'enfer vers le paradis.
Oui.
Et qui nous amène à une amélioration de lui-même. C'est un sujet très actuel, je trouve, bien entendu, étant donné notre époque, finalement, un petit peu, en fait, l'être humain s'automutile et on voit cet aspect monstrueux qu'exprime Dali dans ses œuvres. Et l'aggravation du mal qui est à l'origine de la désintégration sociale.
Alors, Sophie, il y a une question qu'on se pose lors de la visite, oui. Qu'on s'est posée tout le long de la visite qui était non incluse nécessairement dans le dossier de presse, sur la provenance exacte de ces œuvres qui sont authentifiées mais non pas signées. Alors, tu as pu obtenir une réponse précise à cette question qu'on se posait.
En fait, il s'agit de la collection de M. Frank Hunter.
Oui.
Qui, lui, il est l'archiviste officiel de la collection de Dali en Amérique du Nord.
Oui.
Donc, c'est une référence en termes d'authentique. C'est une personne qui authentifie les œuvres de Dali et c'est une référence. Donc, ça fait partie de sa collection. Et donc, c'est en primeur qu'est exposée cette édition ici complète donc à Montréal.
Donc, alors, c'est un tirage.
En collaboration avec Félix Bélanger pour mettre en place et tant d'autres personnes aussi, et pour mettre en place cette exposition.
Alors, c'est un tirage de l'édition italienne, hein, qui est très rare.
Exactement. Oui, exactement. Exactement.
Et ça a été fait avec ce que tu m'as mentionné, le Joseph Forêt.
Oui, c'est Joseph Forêt qui avait proposé donc à Dali d'éditer la gravure originale, finalement.
Oui. En collaboration avec l'éditeur Les Heures Claires, hein?
Exactement, exactement. D'ailleurs, la gravure, c'est beaucoup. Je parle souvent à la population, aux gens, quoi, et quelquefois ils sont. Évidemment, c'est moins répandu, on va dire, que la peinture, mais c'est un art majeur également. D'ailleurs, il y a toujours la Biennale à Trois-Rivières qui a lieu. Donc, c'est un art vraiment reconnu aussi. Hein, c'est pas une sous-catégorie.
Alors, Sophie, donc, écoute, je pense que tu as écouté tes propos, encore une fois, fort instructifs. C'est une passion chez toi, la gravure. Alors, je pense que tu as été comblée.
Oui, alors, bon, il y a la gravure, les impressions numériques, qui se font avec au moyen d'ordinateur. Mais j'aime aussi beaucoup, personnellement, on va dire, le travail de la gravure classique qui demande un énorme travail, puisqu'on applique nous-mêmes la peinture, on doit donc humidifier le papier, passer sous la presse à la main, donc ce n'est pas via l'ordinateur, donc ça représente un travail faramineux.
Hein. Oui.
Donc j'adore ce travail. Il y a un côté artisanal finalement, des fois les gens y voient un côté négatif, mais je ne pense pas du tout, c'est vraiment un art complet, je trouve.
Alors, merci beaucoup, Sophie. Écoute, nous aimerions avoir plus de temps, mais on se reprendra pour une chronique plus longue et un peu plus tard. Merci beaucoup, Sophie. Donc, tu nous recommandes cette exposition tout à fait, là.
Oui, bien sûr. Allez-y avec des groupes scolaires, si c'est possible. Bon, je sais qu'en temps de pandémie, c'est peut-être pas évident, mais c'est super intéressant pour les groupes scolaires. Moi, je pense aussi, et pour les adultes, bien entendu. Mais les enfants, avec cette quantité d'œuvres, on voit vraiment la mise en valeur de cette quête de soi, c'est très intéressant.
Merci beaucoup, Sophie. Je te laisse retourner à ton exercice physique. Et oui, Sophie a pris une pause pendant son exercice physique.
Oui, je travaille ma culture et mes cultures musculaires aussi.
Merci, bon samedi. Merci beaucoup pour ce compte-rendu d'exposition et ces informations précises que tu as recueillies pour nous. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Maintenant, notre artiste, chroniqueuse, Léna Guillot. Bienvenue, Léna.
Bonjour,
blogueuse,
ça va
aussi,
bien?
Blogueuse, il faut surtout le mentionner en grand, blogueuse aussi. Léna, oui, ça va très bien. Alors,
on parlait de la Divina Commedia.
Oui, ton expérience de l'exposition, Léna, ton appréciation de l'exposition, hein, les œuvres et leur présentation.
Bon, excellent. Justement, la première chose qui m'a intéressée, puis je suis certaine que c'est ce qui interpelle plusieurs visiteurs de l'exposition,
oui,
c'est l'œuvre de Dali elle-même.
Oui.
Moi, j'avais jamais entendu parler qu'il avait fait un projet comme Divina Dali. J'avais jamais entendu parler de ça, donc ma curiosité est doublement augmentée.
Excellent.
Ensuite, le lieu où où l'exposition est en diffusion, c'est tellement beau. Encore là, troisième occasion pour me déplacer.
Oui.
Alors, ça, c'est une chose que j'ai trouvé qui était géniale, parce que après le COVID et puis tout ça, qu'on était dans nos maisons si longtemps, aller faire une belle promenade comme ça sur un lieu, on arrive sur le fleuve, c'est super beau.
Oui.
Et finalement, on rentre visiter l'exposition. Alors, il y a moi, les cachets superflus, ça m'a pas trop intriguée. Je les mentionne pas parce que ça a tellement pas eu d'importance pour moi, puis sans doute que tu les as mentionnés. Donc, moi, je me dirige directement vers les œuvres. J'ai eu deux ou trois réactions parce que il y a des œuvres que j'ai aimées plus que d'autres, et puis il y en a d'autres que j'ai carrément pas aimées.
Eh bien,
okay. Oui, c'est ça. Pour moi, malgré que j'ai eu une opinion divergente que Pierre Archambault.
Oui, Pierre qui est un autre visiteur de l'exposition.
Que moi, je trouvais plate ou qui m'exprimait pas grand-chose, lui était capable de lire beaucoup dedans.
Oui.
Tandis que moi, d'autres que peut-être je trouvais plus intéressantes, pour lui, c'était plus ordinaire. Fait que ça prouve encore une chose de l'art. C'est ce que chacun y trouve ce qu'il veut ou ce qu'il perçoit ou ce qu'il peut rejoindre.
Oui, c'est ça. Chacun son expérience de l'art, c'est ça.
Exact, exact. Mm-hmm. Donc, moi, parmi mes favorites, j'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup Dante Purifié.
Oui.
Qui est comme l'image d'un ange avec comme un trou dans le milieu, puis là, on voit un autre personnage à l'intérieur. Ça, pour moi, ça représente beaucoup l'œuvre de Dali. Et le surréalisme, comme on l'entendait à son époque, bien sûr, parce que ça l'a évolué, ça aussi. Les couleurs sont superbes, le dessin est superbe. Moi, j'adorais ça. Ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les avares.
Oui.
Parce que celle-là aussi, pour moi, c'est comme ça que j'aime Dali. Donc, les deux grosses têtes sur un terrain qui a de l'air immense. Les personnages plus petits qui sont Béatrice et Dante lui-même qui s'en vont, qui se promènent dans l'enfer. Là.
Oui.
J'ai trouvé celui-là aussi vraiment, vraiment très, très beau. Est-ce qu'il y en est pour la mise en scène? J'ai trouvé ça un petit peu superflu.
Oui.
J'ai compris l'intention des gens qui ont organisé l'événement en voulant... Parce que si tu es transporté par un artiste, c'est sûr que... projette sur les autres qui vont avoir le même transport, mais on n'a pas vraiment besoin de la mise en scène élaborée. Mm. Pour moi, en tout cas, encore là, on peut pas parler pour les autres, hein, on peut juste parler pour son expérience.
Mais oui, c'est
moi,
ça.
Moi, quand je visite l'art, j'aime ça, même s'il n'y a pas de superflu autour. Puis en plus, c'est comme une mise en scène théâtrale avec la musique et la lumière. Ça a été très élaboré. On voit qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Pour mon expérience de l'œuvre de Dali et de l'exposition, c'était pas nécessaire. Mais
Charlena, il reste peu de temps. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Il reste peut-être un 30 secondes. Allons-y.
Eh bien, la seule chose que j'ajouterais, c'est qu'il reste quelques jours d'été, de beau temps.
Oui.
Profitez-en pour aller voir l'exposition. Surtout que le Vieux Montréal est animé comme on l'a connu jadis. C'est super beau, la visite. Alors, ça vaut la peine de ce côté-là.
Merci beaucoup, Léna. C'est toujours un grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine chronique plus longue. Mais écoutez, il y avait beaucoup à dire sur Divina Dali aujourd'hui. Merci. Bon samedi. Alors, ici s'arrête cette émission spéciale, hein, toute une émission aujourd'hui consacrée à une seule exposition, Divina Dely au Vieux-Port et du Grand Quai de Montréal. Et on aurait pu continuer d'en parler. Une exposition jusqu'au 31 octobre, une exposition aussi incontournable et un lieu d'exposition magnifique. Alors, merci à l'équipe, merci à notre invité du jour, Félix Bélanger, idéateur de Divina Dely. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Radio Centre-Ville.